Et merci d'être venu pour ce thème ce soir qui est vraiment extrêmement important puisqu'on parle de la liberté. Ça va être un peu en deux temps, même s'il n'y aura pas de break entre les deux ce soir. Je vais commencer par faire ce que je sais faire de mieux, n'est-ce pas, à savoir raconter ma vie. Et dans un deuxième temps, vous aurez l'occasion d'entendre une petite réflexion sur un texte de la Bible qui est extrêmement encourageant, ce qu'on appelle une promesse dans la Bible. Et ça sera pour la deuxième partie. Alors, en quelques mots, je vais vous dire quelles ont été mes expériences et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis pasteur à Paris. Et je pense qu'il faut que je commence par vous parler de mon enfance. Moi, je suis né dans une famille qui n'a absolument rien à voir avec la foi chrétienne. Je suis né dans une famille athée, même si on avait quelques arrière-plans juifs du côté de ma mère. Mais mon grand-père n'était absolument pas pratiquant, était même communiste, à vrai dire, et avait élevé ma maman dans un athéisme complet. Et j'ai grandi tout petit dans une ambiance familiale où on m'a expliqué que Dieu n'existait pas et que, globalement, je n'étais que le produit du hasard. Et à vrai dire, cette explication m'a globalement satisfait jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain âge. Mes parents étaient des parents exemplaires. Ils sont toujours des parents exemplaires puisqu'ils sont toujours en vie. C'est des personnes qui m'ont éduqué dans des valeurs morales vraiment extraordinaires. Je crois que c'est parmi les gens que je connaisse qui sont les plus moraux que j'ai pu avoir rencontrés dans ma vie. Et c'est pas la même chose qu'on peut dire de moi. Pour, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été une sorte de garnement, vous voyez, un chenapan, si vous voyez ce que je veux dire. J'étais le genre de gamin, vous n'aimiez pas l'avoir à la maison jusqu'à ce qu'il ait un certain âge. Et même après, moi, j'ai persévéré dans mon côté un peu embêtant. J'ai une petite sœur qui a beaucoup souffert de la situation d'avoir un grand frère jaloux et colérique et violent à la maison. Et j'étais ce genre de gamin qui donne des cheveux blancs aux parents avant 35 ans, si vous voyez ce que je veux dire. Mes parents ont beaucoup souffert avec moi dans mon enfance. Donc je me souviens avoir toujours été colérique, imbu de ma personne, même tout petit, vous voyez. C'est pour vous dire que cela remonte loin. J'ai grandi quand même dans une certaine insouciance. J'avais des parents qui m'aimaient, qui m'entouraient. Et quand j'ai eu 9 ans, il s'est passé quelque chose qui a commencé à radicalement changer ma vie. Ce qui s'est passé, c'est que mon grand-père est décédé. Et en quelque sorte, ce jour-là, c'est comme si mon monde s'écroulait. À vrai dire, je pense pas, je me souviens pas, vous voyez, mais je me souviens pas avoir pensé à la mort avant que mon grand-père décède, quand j'avais 9 ans. Et tout d'un coup, un être cher qui s'en va, quelqu'un qui m'avait presque élevé, qui décède, qui disparaît de la relation, en fait, en quelque sorte. Et dans les jours qui ont suivi, je me suis rendu compte que je n'allais probablement plus jamais le revoir. Et moi, je n'avais aucune espérance quant à l'éternité, je pensais même pas que ça existait. Et dans la tête d'un garçon de 9 ans, vous vous imaginez toutes les questions qui peuvent avoir lieu. Je veux dire, je me demandais où moi-même j'allais aller après la mort. Et j'ai commencé à avoir peur. Il y a un philosophe français qui s'appelle Blaise Pascal. Et ce philosophe a dit, l'homme, ne pouvant vaincre la mort, s'est efforcé de ne plus y penser. L'homme, ne pouvant vaincre la mort, ne pouvant triompher de la mort, s'était forcé de ne plus y penser. Et à vrai dire, on a développé tellement de techniques et de stratagèmes pour ne plus penser à la mort, mais quand on y est confronté à un moment donné, alors là on doit vraiment penser à l'éternité. Et on est confronté à cette perspective-là. C'est ce qui s'est passé pour moi. Alors, j'ai vraiment été traumatisé par la mort de mon grand-père, et j'ai fait toutes sortes de bêtises, je me souviens encore de choses vraiment mauvaises que j'ai fait. J'étais très bagarreur à l'école. Je me souviens, quand j'avais 10 ans, j'ai pris une poubelle de la cour et j'ai tapé sur la tête d'un de mes camarades avec, qui a été gravement blessé. Et j'ai pas été viré de l'école pour ça, ou je sais plus, mais bref, j'étais ce genre de garçon turbulent et violent. Je suis arrivé à ce qu'on appelle en France la 6e, c'est la classe quand vous avez 11 ans, vous rentrez au collège. Et en arrivant dans cette classe, le cours d'histoire portait sur le christianisme. Et quand on m'a parlé de Jésus-Christ en histoire, on m'a expliqué qu'il était mort sur une croix. Moi, je me suis moqué de cela. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce scandale? C'est complètement stupide. Et j'étais tellement moqueur que j'ai dérangé le cours d'histoire et que je n'ai été exclu du cours d'histoire. Tellement je perturbais ce cours, vous imaginez? Mais il y avait une prof, qui s'appelait Madame Dutertre. Cette prof était une chrétienne. Elle était vraiment fâchée par mon comportement. Et il faut dire que s'il y a des profs dans la salle, il faut que vous sachiez que globalement, j'étais le genre d'élève qui rendent les professeurs chauves à la moitié de l'année tellement ils s'arrachent les cheveux, si vous voyez ce que je veux dire. Et cette prof a dit à mes parents, vous devez vraiment souffrir avec un enfant comme ça. Et mes parents, ils ont dit, c'est vrai qu'il est difficile quand même. Alors elle leur a dit, et si cet été vous l'envoyez en colonie? Mes parents ont dit oui, mais on n'a pas, on ne sait pas où l'envoyer, on ne veut pas l'envoyer avec la ville. Elle leur a dit, écoutez, moi je suis chrétienne, vous avez qu'à l'envoyer dans une colonie avec des amis à moi. Alors mes parents se sont dit, oh, pourquoi pas, et ils m'ont envoyé en colonie, dans un camp pour jeunes en Suisse. Et moi je suis arrivé là-bas, petit garçon solitaire, bagarreur, pas beaucoup d'amis, et quand je suis arrivé là-bas, j'ai rencontré des gens qui semblaient m'aimer vraiment. C'était vraiment un changement pour moi, parce que j'étais le même Guillaume, j'étais le même petit garçon qui venait d'être envoyé en colonie, qui était toujours aussi turbulent, toujours aussi désobéissant, toujours aussi bagarreur, mais j'avais des moniteurs en face de moi qui m'aimaient comme j'étais en quelque sorte. Et là, on m'a parlé de Jésus-Christ, mais d'une toute autre manière que dans mon cours d'histoire. On me l'a présenté comme un ami, comme quelqu'un qui m'aimait, comme quelqu'un qui voulait une relation avec moi. Et moi, ça m'intéressait, j'étais tellement seul comme gamin. J'aimais d'être fait tellement d'ennemis autour de moi. Alors, ce jour-là, je me suis rendu compte que ce message était merveilleux, et j'ai accepté que c'était la vérité. Et à vrai dire, on m'a donné une Bible, et moi je croyais que la Bible c'était un livre en 40 exemplaires qu'on ne trouvait qu'au Vatican. Vous voyez, j'étais plein d'idées reçues, alors qu'en fait on m'a donné un livre de poche que j'ai commencé à dévorer, et les histoires que je lisais là-dedans m'émerveillaient. Je lisais l'évangile de Jean, je comprenais rien à ce que je lisais. Et j'arrivais à la fin de l'évangile, je voyais Jésus qui avait été bien toute sa vie, qu'on mettait sur une croix, qu'on clouait sur une croix violemment, et je me mettais à pleurer. Et je comprenais pas ce que je disais. Tout ce que je savais, c'est que ça me touchait. Et j'ai compris ce jour-là que la Bible était la parole de Dieu. J'ai accepté ça intellectuellement, mais pour dire vrai, ça a pas changé ma vie. Quand je suis revenu à Paris, ces chrétiens avaient eu une bonne influence sur moi. De sorte que je chantais les chansons que j'avais apprises dans la colonie à mes parents, et que pendant à peu près 3 ou 4 jours, j'étais un peu plus sage, vous voyez. Alors mes parents, ils se sont dit, c'est bien ça. Et du coup, ils m'ont renvoyé chaque année en colonie. Et dans un certain sens, on peut dire que malgré que j'ai grandi dans une famille athée, j'ai eu une sorte d'éducation chrétienne, vous voyez. J'ai eu une sorte d'enseignement chrétien. J'ai appris les histoires de David, les histoires de Jésus-Christ, les histoires des apôtres. Ça m'a encouragé dans un sens. Et ça m'a amené à avoir une certaine culture. Mais jusqu'ici, ça ne changeait pas ma vie. Il manquait quelque chose à ma vie. Et il manquait une vraie, une grande chose à ma vie. Il manquait Dieu dans ma vie. J'avais un vide en moi. J'étais dégoûté de la vie que je menais, tout gamin que j'étais. Mon grand-père était mort, et moi j'avais peur de la mort, et j'étais confronté à la fin de ma vie. En même temps, je voyais ma vie qui se déroulait pas comme je le voulais. Je voyais les choses qui régnaient dans mon cœur, des mauvaises pensées, des passions, et je commençais à être esclave de toutes sortes de substances. Quand j'ai eu 13 ans, j'ai commencé à consommer des cigarettes, j'en suis devenu accro tout de suite. Et puis quand j'ai eu 16 ans, j'ai commencé à fumer du cannabis. Pourtant, je continuais à fréquenter les cercles chrétiens. Et je me souviens d'un monsieur en particulier qui s'appelle Joël. Ce monsieur venait me chercher chez moi à Montreuil, c'est dans l'est de Paris. Et il m'emmenait à Colombes, c'est dans l'ouest de Paris. Et il m'emmenait à son groupe de jeunes. Alors moi, toute la semaine, je vivais ma vie de drogué en quelque sorte. Et le week-end, je me rendais à ce groupe de jeunes. Et j'étais content d'y aller, en tout cas sur l'allée, le chemin allé, j'étais content d'y aller parce que je savais qu'à ce groupe de jeunes, il y avait des filles, vous voyez. Et alors là, je me préparais bien pour le dimanche, n'est-ce pas, le dimanche après-midi. Et j'allais ventre à terre au groupe de jeunes. Et là-bas, je jouais de la guitare. À l'époque, j'avais les cheveux un peu longs. Et je me croyais vraiment intéressant. En y repensant, j'étais vraiment ridicule. C'est surtout ça que je pense. Et j'allais là-bas, vous voyez. Et au retour, Joël, il me ramenait. Et là, c'était le calvaire pour moi. Parce qu'il me parlait de Dieu dans la voiture. Oh. Et il me parlait de Dieu. Et moi, je me taisais pendant une heure. Et il me déposait chez moi. Et ma vie repartait comme avant. Quand j'ai eu 17 ans, je fréquentais une église, toujours un peu de la même manière. La semaine, je faisais ma vie, et j'allais le dimanche faire l'enfant de cœur. Pensez bien que les gens n'étaient pas dupes. Ça m'arrivait parfois d'arriver complètement défoncé à l'église, vous voyez. Et je me souviens d'une jeune fille qui arrivait en cours d'année. Dans ma classe, j'avais 17 ans à l'époque. Cette jeune fille m'a vu toute la semaine vivre la vie que je menais, consommer de la drogue, fumer du cannabis, et toutes ces choses-là. Et à un moment donné, je me suis rendu le dimanche à l'église, c'était l'église de Nation, et qu'est-ce que je vois ? La jeune fille, démasquée. Toute la semaine, elle m'avait vu mener la vie de patachon qui était la mienne. Et le dimanche matin, elle me voit faire le petit ange. Quelle hypocrisie ! J'ai compris bien plus tard que c'était un petit peu comme ça que Dieu me voyait. Parce que lui, il est comme mon ombre. Et ça veut dire que dans les endroits où je ne devais pas aller, il me voyait. Ce que je pensais, il l'entendait. Et comment je me comportais, il voyait à chaque instant, n'est-ce pas? Alors, l'histoire pourrait être belle. J'aurais pu rentrer chez moi, me mettre à genoux, demander pardon à Dieu pour mon hypocrisie et vivre la vie chrétienne. C'est absolument pas ce que j'ai fait. Vous savez ce que j'ai fait? Je me suis enfui parce que j'ai préféré mon plaisir personnel à Dieu. Je pensais que Dieu, c'était un Dieu austère et méchant. Et je me suis éloigné de lui et j'ai préféré vivre la vie que j'avais envie de vivre, à savoir consommer de la drogue, sortir avec des filles, faire l'intéressant. Je ne vais pas vous détailler tout ce qui composait ma vie à l'époque. J'avais 17 ans à l'époque. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Quand il n'y a plus de conseiller, le peuple est sans frein. » J'ai dit au revoir aux chrétiens, j'ai dit au revoir à mon ami Joël, j'ai dit au revoir au groupe de jeunes que je fréquentais. Et là, ça a été le début de la fin. Quand il n'y a plus de bons conseillers, tu deviens sans frein. J'avais personne qui était en quelque sorte de bon conseil pour m'aider à maintenir une certaine moralité. J'ai commencé à fréquenter des gens de plus en plus pourris. J'ai commencé à devenir violent à la maison, j'ai commencé à taper ma sœur, j'ai commencé à frapper mes parents. Des choses dont j'ai honte aujourd'hui. Et je ne les ai pas frappées des caresses, si vous voyez ce que je veux dire. Je les ai frappées violemment. À tel point que quand j'ai eu 19 ans, mes parents n'en pouvaient plus. La police était venue plusieurs fois à la maison. Les pompiers étaient venus à la maison. Je m'étais fait embarquer pour ces faits de violence à plusieurs reprises par les forces de police. Mes parents m'ont dit, on t'aime, mais on n'en peut plus. Il faut que tu partes. Je suis parti, j'ai été m'installer dans un appartement et j'ai fait du trafic de drogue mon métier. Et je me suis rendu compte que non seulement je pouvais gagner très bien ma vie en vendant de la drogue, mais en plus j'avais une manière de développer mes revenus d'une manière exponentielle. Je pouvais voler mes amis, mes collègues. J'étais devenu un véritable rapace. Vous étiez mon ami jusqu'à une certaine somme. Passé cette somme, mes yeux faisaient dollars ou euros, vous voyez. Je ne pensais plus qu'à une chose, c'était vous escroquer. J'avais une bonne tête. On ne me voyait pas arriver. Mais j'étais le premier à vous dévaliser. Les gens dans ma cité, j'habitais une cité HLM à Montreuil-sous-Bois dans le 93, les gens dans ma cité m'appelaient l'appât. Ça veut dire qu'on ne me voyait pas arriver et que j'étais un sacré voleur. Je gagnais bien ma vie, ça c'est vrai. Je changeais de voiture quand je voulais, ça c'est vrai. Je changeais de téléphone portable, j'étais un des premiers à avoir des téléphones portables, ça c'est vrai. Oh, j'avais tout ce que les jeunes de ma génération voulaient. Ils étaient envieux de moi. J'étais esclave de toutes sortes de choses. Mais qu'est-ce que j'étais malheureux, chers amis. Quand je regarde en arrière, je me dis, mais quelle vie! C'était comme si j'avais soif et j'avais commencé à boire de la boue pour me rassasier. Ni plus, ni moins. Voilà quelle était ma condition. J'étais ni plus ni moins qu'un esclave. J'étais devenu esclave de mon mode de vie. J'avais l'impression de prendre plaisir en ça, mais ça ne me laissait qu'un arrière-goût de poison au fond de moi. Je me sentais perdu. Et je me souviens, notre vie allait très vite, hein. C'était comme une vie de chef d'entreprise, finalement. Et parfois, on s'arrêtait avec mes amis avec qui je vendais de la drogue, et on se disait, mais qu'est-ce que c'est que cette vie qu'on mène? Je me souviens même avoir pleuré avec un de mes amis, nous les gros durs, vous voyez. Certains de mes amis que je fréquentais à l'époque ont été très loin dans la criminalité. Certains sont encore en prison à l'heure qu'il est. Certains ont tué des gens. D'autres ont fait des braquages de banque. Certains sont en prison au Maroc pour trafic international de drogue. D'autres sont morts. Et aujourd'hui, moi, je vous regarde. Je suis un miraculé, chers amis. Si j'avais continué, je pense, quelques années de plus dans ce milieu, je devenais tellement fou que soit j'aurais tué quelqu'un, soit quelqu'un m'aurait tué parce que je m'attaquais vraiment à des gens qui étaient d'une autre pointure que moi. Et je devenais vraiment à moitié dingue, c'est le mot qui convient, hein. Je devenais fou. Mais Dieu m'a épargné. Ce qui s'est passé, alors que j'avais abandonné l'église, abandonné mon ami Joël, quand j'ai eu 23 ans, il y a une jeune fille que j'appréciais beaucoup, qui a eu sa maison avec un accident de gaz. Une poche de gaz s'est formée sous sa maison, et sa maison a explosé alors qu'elle était dedans. Et moi j'ai pris peur. Je suis monté là-haut en catastrophe, c'était vers le haut de ma ville, et à la place de la maison, j'ai juste trouvé un cratère. Et j'ai pleuré. Je suis retourné chez moi en pleurant. Ah, j'étais un gros dur, hein. Ah, tout le monde avait peur de moi, mais j'étais un gros dur qui pleurait, vous voyez, dans ma voiture. Je suis rentré chez moi, j'ai fermé la porte à double tour, je me suis mis à genoux, et j'ai prié, Seigneur, si tu la sauves, j'arrête de fumer du cannabis. Waouh, la promesse, quoi. Ah, je me sentais vraiment quelqu'un d'extraordinaire, quoi. Et vous savez quoi? Elle n'est pas morte. Elle n'a même pas une trace. Waouh, faut vraiment bien regarder. Vous voyez, il n'y a plus une seule séquelle de cet accident alors qu'elle était au premier étage de sa maison et que sa maison a explosé en entier. un miracle, une miraculée. Mais quant à mes engagements, donnant-donnant avec Dieu, qui peut faire donnant-donnant avec Dieu? Quelle est notre capacité à faire donnant-donnant avec Dieu? Est-ce qu'on pense pouvoir marchander avec lui? Est-ce qu'on a la moindre puissance en nous? J'ai jamais tenu mes promesses. Et je suis retombé dans la drogue encore pire qu'avant. Et dans les mois qui ont suivi, une des personnes qui vendait de la drogue pour moi, parce que j'en étais arrivé à un point où je vendais à d'autres dealers, vous voyez, une de ces personnes s'est fait arrêter, m'a dénoncé. Comme ils n'ont pas pu m'attraper sur le champ, ils ont essayé de m'attraper dans un autre endroit où je me réunissais. Ils ont attrapé deux autres personnes qui m'ont dénoncé. Et ces trois personnes m'ont dénoncé, et en expliquant à la police que c'était moi, le grossiste en drogue de tout leur réseau, si vous voyez ce que je veux dire. Et la police s'est mise à me rechercher. Je l'ai su avant qu'ils ne m'attrapent. J'ai prévenu mes parents qu'ils allaient passer probablement chez moi, parce que j'étais domicilié encore chez mes parents, pour m'arrêter. Et c'est ce qu'ils ont fait le lendemain matin. Mon père étant prévenu a pu ouvrir la porte. Grâce à Dieu, ils n'ont pas cassé la porte chez mes parents. Et là, pendant 6 mois, je me suis mis en cavale. Je crois qu'en Belgique, on appelle ça être latitant, si ma mémoire est bonne. J'étais en train de me sauver devant la police. Vous vous souvenez de l'année 2003, peut-être? C'était la grande canicule. Vous vous souvenez de ça? Et pendant cette grande canicule, je crevais de chaud pendant ma cavale. Et mes amis en prison me faisaient savoir que la situation en prison était intenable. Et moi, je voulais vraiment pas me faire arrêter par la police. Et à vrai dire, vous savez, ma vie était dramatiquement speed. Je courais partout. Et à un moment donné, c'est comme si Dieu m'arrêtait. Il m'avait enlevé mon activité, je me retrouvais à me sauver devant la police, je me cachais à droite à gauche, je passais des longues journées à rien faire et je réfléchissais. Et voici ce que j'ai pensé. Combien de fois est-ce que je n'ai pas entendu ce que je devais faire quand j'allais fréquenter mes amis chrétiens? Combien de fois est-ce que j'ai préféré suivre mes propres voies? Et je priais en disant, quand je vais sortir de prison, mon Dieu, je vais t'obéir. Et je prends l'engagement maintenant de t'obéir. Exactement comme quand j'avais pris l'engagement d'arrêter de fumer du cannabis. Comme si, déjà par le passé, il n'y avait pas eu la preuve que j'étais incapable d'obéir. Alors, en septembre 2003, je suis parti voir la police et je me suis rendu en prison. Et je me disais, en prison au moins j'aurai le temps de lire ma Bible. Peu importe le temps que j'y passe, tu parles. Quand je me suis rendu en prison, je me suis rendu sans Bible, toutes mes bonnes résolutions, envolées. Toutes mes bonnes résolutions ont disparu. Je me suis retrouvé en prison à Fleury-Mérogis, la plus grande prison d'Europe. Et figurez-vous que, quand ils m'ont mis dans le bâtiment D2, un des bâtiments les soi-disant les plus durs, je suis arrivé dans la cour de promenade, et on était à peu près 150 détenus dans cette cour. Et qu'est-ce que j'ai vu? 90 personnes de ma ville. Dedans, dehors, qu'est-ce qui changeait? Simplement les barreaux. Le même esclavage, il y avait de la drogue qui circulait, les mêmes personnes, les mêmes relations. Et mon père m'a fait parvenir une Bible que je lui avais réclamée, qui était dans ma chambre, ma vieille Bible de quand j'étais gamin, qu'on m'avait donnée. Et j'ai recommencé à la lire. Et je priais, et je pensais, à qui est-ce que j'aimerais ressembler? Et je me souvenais de mon ami Joël. Vous vous souvenez, celui qui venait me chercher à Montreuil, qui m'emmenait à Colombes. Et je me disais, il est tellement droit, ce garçon. Je le voyais un peu comme un cheval, vous savez, avec des œillères, là. Je voyais tellement droit, je me disais, quand je sortirai, mon Dieu, j'irai le voir, je te le promets. Je priais comme ça. Ce qui s'est passé, pour faire très court, c'est que quand j'ai été extrait au tribunal pour être confronté aux personnes qui m'accusaient, figurez-vous que la justice française a permis que je croise les personnes qui m'avaient dénoncé avant de les croiser devant le juge. Ils se sont trompés, en fait. Je me suis retrouvé dans la même cellule que eux. Alors je les ai menacés de mort en leur disant, si vous ne changez pas de déposition, je vous tue. Ils ont eu peur. Et franchement, je pense que j'allais vraiment leur faire mal à l'époque. Et ces personnes ont changé de déposition et ont dit, non, non, on a dénoncé Guillaume parce que Guillaume nous devait de l'argent, mais on peut pas vous dire à qui appartenait la drogue parce qu'on a tellement peur, c'est quelqu'un de vraiment dangereux. Mais Guillaume, c'est juste un client qui nous devait de l'argent. En fait, on l'a dénoncé pour rien. Alors la juge a dit, oh bah heureusement qu'on le sait maintenant, hein. On est vraiment désolé, monsieur Bourrin. Et ils m'ont libéré. 13 kilos de cannabis, 1 mois et demi de prison. Est-ce que c'est une justice, ça? Je suis sorti de prison. Vous vous souvenez de mes résolutions? Je vais aller voir mon ami Joël. Je lui parle. Toutes mes résolutions se sont envolées comme une fumée. La seule chose que j'avais envie, c'était de récupérer mon argent. J'étais assoiffé par l'argent. J'étais esclave de l'argent. J'étais un esclave. Je n'étais pas quelqu'un de libre. Je poursuivais la liberté. Je ne l'avais pas. Et j'ai attrapé la personne qui avait dénoncé tout le monde. Je lui ai dit, je vais te tuer si tu ne me rends pas tout l'argent que j'ai perdu à cause de toi. Et je lui ai réclamé une grosse somme de quoi acheter un joli petit appartement à Paris à l'époque. Il m'a dit, mais je n'ai pas cet argent. Je lui ai dit, débrouille-toi, je te tue. Il a commencé avec ses parents à faire un crédit pour me ramener cet argent. Vous imaginez ça? Et dans l'intervalle, moi, je n'étais pas encore jugé. Chaque semaine, j'allais signer au tribunal pour montrer que je ne m'étais pas enfui dans l'attente de mon jugement et essayer d'imaginer la condition qui était la mienne dans mes sentiments. J'étais ce qu'on appelle en France sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire que je n'étais pas jugé. Donc j'étais, la police me suspectait encore. J'étais en train de menacer quelqu'un de mort, de lui extorquer des fonds à lui et à sa famille. Il était en train de faire un crédit, s'il vous plaît. Et j'étais chez moi, et j'étais angoissé. Et je me disais dans mon cœur, si la police m'arrête maintenant, ils vont me mettre 10 ans de prison, 15 ans de prison. Et je vais passer une partie de ma vie derrière les barreaux. Et un soir, on a cogné à la porte. Et ma mère, ça faisait 5-6 jours que j'étais sorti de prison, ma mère, elle est partie pour ouvrir. Et moi, j'ai eu un pressentiment. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir un pressentiment. Moi, j'ai eu une grosse barre au ventre, vous voyez. Et j'ai dit à ma mère, je ne suis pas là. Et j'allais m'enfuir par les toits, comme dans les séries américaines à la télévision. Et je me suis levé. Ma mère, elle a ouvert la porte et j'ai juste entendu, oh, Joël. Bonsoir, Joël. C'était mon ami de l'église qui venait me chercher tous les dimanches, 8-9 ans auparavant, et pour qui j'avais prié quand j'étais en prison. Et je viens comme ça chez moi, alors que moi j'étais incapable d'aller le voir. Incroyable! Alors je suis redescendu, je me suis assis, à vrai dire j'avais les jambes un peu tremblantes, et je lui ai raconté toute cette histoire que je vous raconte là. Et lui il m'a juste dit, c'est Dieu qui te cherche. Alors je lui ai dit, écoute, moi je crois pas au hasard, mais en même temps, franchement, il faut pas me dire que Dieu il fait les choses comme ça quand même. Alors tu sais quoi, j'avais prévu de revenir à l'église, je vais revenir, je lui ai dit. Mais bon, ça s'arrête là. Hein. Je me suis rendu à l'église, et le pasteur a ouvert la Bible, ce qu'on va faire après, et il a lu ce verset. « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Chers amis, moi je le savais que j'avais péché. J'avais péché, c'était clair, je le savais. Mais ce que je savais aussi, c'est que tous les gens que j'avais côtoyés dans ma vie, ils avaient péché aussi. Même les gens qui étaient meilleurs que moi, j'avais vu leurs vices. J'étais devenu un expert en discernement du vice des autres, si vous voulez tout savoir. On se disait entre nous que j'avais le vice, le tournevis et la clé de 10. C'est ce qu'on disait à Montreuil, c'était notre expression, vous voyez. Et j'avais vu le vice dans le cœur des gens. Et quand il y avait marqué « tous ont péché », j'ai dit « mais c'est vrai ». Tous sont privés de la gloire de Dieu. Je me suis dit « mais c'est vrai ». Et aussi vrai que je vous vois ce soir, chers amis, je me suis rendu compte que j'étais perdu, que j'allais aller en enfer, que j'étais profondément éloigné de Dieu, que mon éternité, je savais pas où j'allais la passer, que j'avais caché ma peur de la mort derrière un écran de fumée, que j'allais mourir, que j'allais me retrouver sans Dieu, et j'ai eu peur, j'ai eu vraiment peur. Mais j'ai lu ce verset, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, mais tous sont gratuitement justifiés par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'était le verset d'après. Et quand j'ai pris conscience que Jésus-Christ, quand il est mort sur la croix, il a tout simplement payé ma condamnation. Le jugement que j'aurais dû prendre, celui de la drogue, je l'ai pris. Le jugement que j'aurais dû prendre éternellement pour mes fautes, non pas le jugement parisien du tribunal de Paris, le jugement pour mes fautes, Jésus-Christ l'a pris à ma place. Les coups qu'il avait pris sur la croix, quand on l'a frappé avec le fouet, quand on l'a percé dans son côté, quand on a cloué ses poignets et ses pieds, vous vous rendez compte, la souffrance terrible, l'étouffement, quand il était en train d'essayer de se remonter pour respirer, en tirant sur ses parties déchirées, vous vous rendez compte, c'était pour moi. Et franchement, j'ai pleuré, chers amis. Ça m'a tué de savoir ça. J'ai plié le genou devant lui, je lui ai dit, je veux changer, je veux plus être comme avant, je veux te suivre. Et je peux plus vous raconter les circonstances exactes, je me souviens plus de tout le détail. Je me souviens que j'ai pris un Nouveau Testament, une de ces formats-là. J'ai été voir la personne à qui je réclamais cet argent. Il m'a dit, ah, j'ai une partie de ton argent, j'ai 17 000 euros sur moi. Je lui ai dit, j'en veux pas. Je le voulais un peu quand même, tu vois. Mais je lui ai dit, j'en veux pas. Et je lui ai dit, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Et le gars, il m'a regardé. Et je lui ai dit, je ne veux pas de ton argent, je n'en veux pas. Je lui ai donné ce Nouveau Testament, c'est la première personne à qui j'ai témoigné de ma vie. Et je suis parti en courant. Il y a des choses, parfois, on doit apprendre à fuir, chers amis. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Si vous connaissez la parabole du fils prodigue dans Luc chapitre 15, qu'est-ce qui se passe? Le fils, il dit, je rentre en moi-même, et il se dit dans son cœur, il rentre en lui-même et il se dit, oh, combien d'ouvriers chez mon père avaient du pain en abondance? Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Est-ce que c'est ça la conversion? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça la conversion? Non, chers amis, ça c'est la décision. Mais quelques versets plus tard, vous avez le fils prodigue qui se lève, qui fait un pas. Ça c'est la conversion. Et pendant qu'il était encore loin, son père le voit et fait les 10 000 millions de milliards de milliers d'infinités de pas qu'il séparait encore du fils, et c'est exactement ce que j'ai fait. Un tout petit pas de rien du tout. Je ne veux pas de cet argent. Ça, qu'est-ce que c'était ne pas vouloir de cet argent? 10 000 milliers de pas, une infinité de pas, j'étais complètement éloigné de Dieu. Il est venu me chercher et il a transformé ma vie. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai complètement arrêté de fumer. Du cannabis, pour commencer. Et ensuite, j'avais un deuxième problème, c'était la cigarette. Et la cigarette chez moi, chers amis, c'était vraiment un truc incroyable. La cigarette, j'en consommais 2 paquets par jour, même malade, au point d'aller vomir tellement je fumais. Vous voyez? Et ça, je savais que j'allais avoir du mal à m'en débarrasser. J'avais un de mes amis au lycée, il m'avait dit, toi, tu ne seras jamais libre de la cigarette, c'est sûr. Alors, à un moment donné, je suis revenu d'une réunion de jeunes, je pleurais, je savais que je devais lâcher les cigarettes, et je ne voulais pas. Alors, j'avais des paquets sur moi, dans la voiture, je les ai jetés par la fenêtre. Je suis arrivé chez moi. Quand je suis arrivé chez moi, j'avais une vingtaine de cartouches, parce que je faisais du trafic de cigarettes aussi. J'avais une vingtaine de cartouches de cigarettes chez moi. Et ces cartouches de cigarettes, je les ai jetées après les avoir découpées en petits morceaux. Et pendant 3 jours, je suis resté enfermé chez moi à trembler comme un drogué parce que je n'avais pas de cigarettes. Et j'avais envie de tout casser chez moi, il fallait vraiment pas me voir à ce moment-là. Hein. Et au bout de 3 jours, je me suis dit, mais c'est pas possible, je veux pas rester comme ça, c'est pas vrai. J'ai prié, j'ai dit, mon Dieu, il me reste un tout petit peu d'argent, il faut que j'aille travailler, mais je peux pas rester dans cet état-là, transforme-moi. Et j'ai dit, avec cet argent, je vais sortir de chez moi et je peux pas faire autre chose, je peux pas le rendre au dealer, j'ai besoin de le dépenser dans quelque chose, je peux pas acheter de cigarettes, il faut que j'achète quelque chose. Alors je suis sorti de chez moi, et j'essayais d'aspirer la fumée des gens qui avaient dans la rue, et j'ai été jusqu'à la maison de la Bible, et j'ai acheté tous les commentaires de Jean Calvin, et tous les commentaires que je pouvais trouver sur la Bible, dans cette librairie. Je suis rentré chez moi, et pendant un mois, je n'ai fait que lire. Et au bout d'un mois, je suis sorti, j'ai été m'inscrire à une agence d'intérim, et j'ai trouvé du travail. Et ça, les amis, c'était un vrai miracle. Parce que j'avais un poêle dans la main, il allait jusqu'au plafond. J'étais une feignasse de première pour aller travailler. Quand j'ai eu mon premier salaire, chers amis, 900 €, j'ai dit, waouh, c'était ce que je gagnais en un jour avant. Ça m'a fait tout drôle. Mais laissez-moi vous dire une chose. Ça m'est arrivé de gagner beaucoup d'argent. Parfois 30 000 € sur un mois, ça m'est déjà arrivé, hein. Je n'ai jamais été autant à l'aise que depuis que j'ai laissé la drogue. Non pas que je gagne plus d'argent, non pas que j'ai plus d'abondance de biens, juste Dieu m'a appris à me contenter de ce que j'avais. C'est l'apogée de toutes les sciences que de savoir se contenter de ce que l'on a. Et il n'y a que Dieu qui peut nous l'apprendre. Il a fait baisser mes besoins et je vis une vie parfaitement remplie avec le peu que j'ai aujourd'hui. Et quand même, il m'a permis d'évoluer, mais ça c'est une autre histoire. Et vous savez quoi ? Il a transformé ma vie. Il m'a aidé à me réconcilier avec ma petite sœur. Mes parents m'ont réaccueilli et m'ont pardonné. Et ma mère et ma petite sœur prient aujourd'hui, même s'ils sont pas encore chrétiens, ils sont pas très loin, vous voyez. Et j'ai une famille qui m'a accepté, y compris dans cette église. C'est pas la première fois que je viens. Chaque fois que je viens ici, je suis accueilli comme si c'était ma propre famille, vous voyez. J'ai une famille, mes frères et sœurs, l'église, une vraie famille qui m'accueille. C'est formidable de vivre une vie comme celle-là. Mais laissez-moi vous dire une chose. Ce n'est rien en comparaison de l'assurance que j'ai aujourd'hui de ce que je vais faire quand je serai mort. Parce que j'ai une assurance pour l'éternité de ce que je vais vivre une vie qui n'aura rien à voir avec celle que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, je goûte juste un petit aperçu. C'est comme la bande-annonce d'un film. Et encore, rien à voir. Je vais passer l'éternité avec mon Dieu dans une vie qui sera parfaite, une vie de joie avec lui. Non pas parce que je suis une personne bien, non pas parce que je suis quelqu'un d'extraordinaire, je suis un pauvre type, vous venez de l'entendre, mais parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour moi. C'est exactement l'expérience que j'ai faite. Ça, c'est mon témoignage. Et plusieurs dans cette salle pourront vous raconter une expérience similaire, à savoir Jésus-Christ qui a payé le prix de la condamnation, qui a pris sur lui la colère que méritaient ses péchés, et lui-même a une assurance comme la mienne. C'est juste mon témoignage. Mais j'aimerais maintenant qu'on se tourne vers ce qui a été à l'origine de mon témoignage, à savoir la parole de Dieu. Et si vous avez une Bible devant vous, je vous propose de l'ouvrir dans l'Évangile selon Jean. Évangile selon Jean. L'Évangile selon Jean est au début du Nouveau Testament. C'est le 4e livre du Nouveau Testament. ce quatrième livre du Nouveau Testament, et vous lirez avec moi le verset 32, juste un verset qui va très bien avec notre thème ce soir. Jean, chapitre 8, verset 32. Jean 8, verset 32. Je vais lire. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je vais juste prier Dieu parce que c'est sa parole et on voudrait qu'elle nous fasse du bien ce soir. Seigneur Dieu, merci pour ce que tu as fait dans ma vie, mais merci surtout pour ta parole parce que tu parles. Merci parce que quand tu parles, c'est pas n'importe quoi, c'est juste que tu veux nous communiquer un message particulier. Tu veux nous parler personnellement. Et ce soir, je te prie pour que tu parles personnellement à chacune des personnes qui sont là, que tu puisses te révéler à nous et nous faire du bien. Amen. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et vous savez, on croit parfois être libre et on ne l'est pas réellement. C'était valable pour les auditeurs de Jésus au moment où Jésus venait de leur prononcer ce verset, puisqu'au verset suivant, le verset 33, ils répondent à Jésus, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. » Nous n'avons jamais été esclaves de personne, disent-ils à Jésus. Mais en vérité, c'était pas vrai. Parce que tous ces juifs de l'époque de Jésus étaient juste sous domination romaine. Mais ce dont Jésus parlait en plus, c'était une forme d'esclavage bien plus profonde que ses auditeurs n'arrivaient pas à identifier. C'était à celle-là qu'il faisait référence lorsqu'il leur parlait de liberté. En 1839, une goélette qu'on appelait la Amistad partait de Sierra Leone, de ce qu'on appelle aujourd'hui la Sierra Leone, qui s'appelait pas la Sierra Leone à cette époque-là, c'est en Afrique de l'Ouest. Il était chargé d'esclaves et il partait, il faisait route avec des propriétaires espagnols vers les États-Unis. Sur ce bateau se trouvaient des esclaves. Le bateau n'avait pas le droit de transporter des esclaves normalement, il y avait eu des documents falsifiés et il partait vers les États-Unis pour vendre ces personnes pour l'esclavage, la traite négrière, comme on appelle ça dans l'histoire. Il voulait les vendre à des propriétaires de champs de coton aux États-Unis. Sur ce bateau, il y avait un dénommé Joseph Sinque. Ce Joseph Sinque s'est révolté. Il a entraîné avec lui une mutinerie. Ils ont tué tous les membres d'équipage, y compris le capitaine. Et ils ont pris le contrôle du navire. Et ils ont demandé aux propriétaires de les ramener en Sierra Leone. Ils se croyaient libres. Ils pensaient avoir acquis leur liberté. Mais ils n'avaient pas la maîtrise de leur destin. Les propriétaires du bateau leur ont menti. Et au lieu de les ramener au Sierra Leone, ils les ont dirigés vers les États-Unis. C'est l'histoire de la Amistad. Tout homme cherche le bonheur. Comme cette dramatique histoire de ces esclaves qui étaient juste malheureux d'avoir été exilés sur ce bateau, ils cherchaient simplement par leur mutinerie à avoir le bonheur. Tout homme cherche le bonheur, et il est évident que l'asservissement, quel qu'il soit, est un obstacle au bonheur. Est-ce que vous êtes esclave de quelque chose ou de quelqu'un? Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes libre? Est-ce que vous êtes parfaitement heureux dans votre vie? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui vous en empêche? Et c'est un message d'espoir qu'on est en train de lire ce soir. C'est un message d'espoir que Jésus-Christ donne ici. Vous pouvez être parfaitement libre. C'est possible. Mais comment? Essayons de réfléchir ensemble à ce sujet. Et la première chose que j'aimerais vous dire ce soir, c'est que nous sommes tous esclaves de quelque chose. Nous sommes tous esclaves de quelque chose. Et quand on pense à l'esclavage, on a en tête souvent la souffrance et l'atrocité de ce qu'on appelle la traite des Noirs. C'était affreux ce qui s'est passé. C'est un véritable génocide qu'il y a eu en Afrique de l'Ouest, notamment. Mais si vous regardez la définition d'un dictionnaire, en France on a le Larousse, je suppose qu'en Belgique aussi, la définition du Larousse dit « dépendance d'un individu à l'égard de quelque chose ou de quelqu'un, activité qui impose une contrainte », et il donne l'exemple « esclavage de la drogue », est directement lié à la notion d'addiction. Addiction. Laissez-moi vous donner la définition que la Bible donne à l'esclavage. Dans le deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 19, « Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Et l'addiction à un comportement ou à une substance, c'est juste en réalité un véritable esclavage dont on a de la peine à se libérer, n'est-ce pas ? Récemment, j'ai été chez mon médecin, et mon médecin m'a dit « Est-ce que vous fumez ?» Je lui ai dit « Non, monsieur, j'ai arrêté. » Il m'a dit « Mais ça fait combien de temps ?» Je lui ai dit « Ça fait 9 ans. » Il m'a dit « Félicitations, monsieur, vous faites partie des 7% de Français qui sont parvenus à arrêter de fumer depuis plus de 5 ans. » Seulement 7% des gens sont parvenus à stopper définitivement la cigarette. Est-ce que vous vous rendez compte l'esclavage de la cigarette, ce que cela implique ? Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Je n'attends pas forcément de réponse, mais c'est pour vous-même. De quoi êtes-vous esclave ? Qu'est-ce qui vous domine au quotidien ? Est-ce que ce sont les drogues ? Est-ce que c'est l'alcool ? Est-ce que ce sont les médicaments ? Est-ce que c'est... les jeux, la loterie nationale, est-ce que c'est l'excès de nourriture ? Est-ce que c'est le sucre ? Est-ce que c'est la caféine ? Est-ce que c'est le Coca-Cola ? Est-ce que ce sont les jeux en ligne du type World of Warcraft ? Est-ce que c'est Facebook ? Est-ce que c'est Twitter ? Est-ce que c'est Internet ? Est-ce que c'est la pornographie ? Est-ce que c'est le sexe ? Est-ce que c'est le pouvoir ? Est-ce que c'est le sport ? Qu'est-ce qui vous rend esclave ? Qu'est-ce qui vous domine, chers amis ? Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Petit exemple, on cherche parfois à concrétiser un espoir ou à se libérer de contraintes financières que l'on peut avoir en tentant sa chance au loto et on en devient addict. Combien de personnes vous ne voyez pas dans les cafés qui sont complètement accros de la loterie nationale ? Vous voulez un autre exemple ? Avec la drogue ou l'alcool, on espère rendre sa vie plus rose, échapper aux réalités qui nous étreignent. On espère avoir un espace de liberté où on peut oublier, où on peut décompresser, où on peut s'euphoriser, n'est-ce pas ? Et à chaque fois, souvent, on tombe dans une déchéance pire que notre condition première. Quel est le drame de l'esclavage ? Le drame de l'esclavage, c'est qu'il commence toujours par une recherche profonde de la liberté et du bonheur que l'on croit trouver dans une substance ou dans une pratique, mais ça termine toujours par un asservissement plus fort. Il y a un père de l'Église, c'est-à-dire un des premiers commentateurs chrétiens, qui a dit « Il y a dans tout cœur d'homme un vide en forme de Dieu que Dieu seul peut combler. » Il y a dans tout cœur d'homme un vide en forme de Dieu que Dieu seul peut combler. C'est comme un puzzle, vous voyez. Il manque une pièce, il manque quelque chose. Nous avons besoin de mettre Dieu à la place qui lui revient de droit. Et c'est en cherchant à combler ce vide avec autre chose que Dieu que nous devenons esclaves. Et paradoxalement, ça va dans le sens opposé de notre bonheur. C'est comme essayer de remplir l'univers avec des sacs poubelles. Vous n'y arriverez jamais. Ce que vous avez dans le cœur, c'est juste un vide infini en forme de Dieu. Il faut que Dieu reprenne sa place. Sinon, vous ne serez pas heureux. Sinon, ça ira complètement dans le sens contraire de ce que vous recherchez en cherchant le bonheur. Nous sommes tous esclaves de quelque chose. Vous, ce soir, vous l'êtes. C'est quoi ? Contre quoi vous battez-vous ? La deuxième chose que j'aimerais souligner, c'est que Dieu a horreur de l'esclavage. Dieu a horreur de l'esclavage. Et par nature, il a horreur de l'asservissement. Ça va complètement à l'encontre de tout ce qu'il est. Et dans toute l'histoire de la révélation biblique, vous pouvez voir Dieu à l'œuvre. Si vous lisez la Bible, il prend plaisir dans la liberté des hommes et des femmes. Le meilleur exemple, l'exemple le plus probant, c'est probablement la sortie d'Égypte. Il entend leur asservissement, il entend leurs cris, et il les libère, n'est-ce pas ? Et si vous regardez même simplement la place de l'esclave dans la loi, dans les chapitres de la Bible qu'on appelle la loi, l'esclave était dans un sens mieux traité que les ouvriers à la journée. C'était pas avantageux pour un homme aisé d'avoir un esclave. Il fallait qu'il le nourrisse, il fallait qu'il nourrisse sa famille. S'il voulait observer la loi à la lettre, un esclave, c'était pas avantageux du tout d'en avoir un. Dieu avait prévu de prendre soin des esclaves. Vous voulez une troisième illustration ? William Wilberforce. William Wilberforce est mort en 1833. C'est un des plus grands abolitionnistes. C'est à des hommes comme lui qu'on doit que l'esclavage en Occident a été aboli. Sur quoi est-ce qu'il s'est basé ? Sur la Bible. Il voulait simplement appliquer la Bible pour qu'on respecte les esclaves de son pays. Et quand il a vu que c'était pas possible, que les hommes n'y parvenaient pas, que tous ses esclaves étaient durement maltraités, il a fait ce que son Dieu aurait fait. Il a détaché les chaînes. Il a accordé la liberté. Il s'est battu pour l'abolition de l'esclavage. Dieu a horreur de l'esclavage. Et si on applique les principes bibliques, nous voyons que Dieu a horreur de l'asservissement. Et c'est la même chose avec nos addictions. Dieu ne prend pas plaisir en elles. Il y a ce vide en forme de Dieu, vous l'avez rempli d'autre chose que Dieu. Mais est-ce que vous pensez que Dieu n'a pas envie de prendre la place pour laquelle il a été prévu? Il ne prend pas plaisir dans vos addictions. Il ne prend pas plaisir dans votre esclavage. Dans toute la Bible, vous trouvez cette réalité. L'esclavage de l'être humain n'est pas le désir de Dieu. Ça lui fait mal. Il en a horreur. Et ce qui rend les femmes, les hommes esclaves, ça le met en colère. Il ne supporte pas cette idée que vous soyez esclave, que vous soyez dépendant de quelque chose d'autre que lui, parce que ça ne vous rend pas heureux. Il veut votre bonheur. Il veut vous délivrer. Son désir est de rendre l'homme parfaitement libre. Il a un désir de paix. Il a un désir de liberté. Et c'est ce désir que ce soir je veux vous annoncer. Dieu a horreur de l'esclavage. Dieu ne prend pas plaisir dans vos addictions. Dieu ne prend pas plaisir de ce qui vous domine, chers amis, qui êtes venus nous rejoindre ce soir. Dieu a horreur de l'esclavage. La troisième chose et dernière chose que je voudrais souligner, c'est qu'il y a un moyen que Dieu a pour nous rendre libres. Le moyen de Dieu pour nous rendre libres. Le verset que nous venons de lire nous dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ce que le texte que nous lisons est en train de nous dire, c'est que la vérité rend libre. Chers amis, nous sommes en face de ce que la Bible appelle une promesse. Nous sommes devant une promesse. Alors j'ai conscience que ce mot a perdu de son sens à cause des promesses électorales, entre autres. On a l'impression qu'il y a un sport national, occidental, en France en tout cas, on est les champions du monde. Les gens qui font campagne font des promesses et ne les tiennent jamais quand ils arrivent au pouvoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est le cœur de l'homme, chers amis. Mais la personne qui fait la promesse ici, c'est pas n'importe quelle personne. Il s'agit de Jésus-Christ. Et il n'y a aucun homme comme lui. Il n'existe aucun homme comme celui-ci qui ait marché parfaitement sur cette terre. Les Africains sur le bateau de la Amistad, vous vous souvenez de cette illustration que je vous donnais en début de ce sermon, ont été trompés par les propriétaires et finalement ils ont été ramenés à New York. Qu'est-ce qui s'est passé? Les propriétaires leur ont menti. Ils leur ont dit « Oui, 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 on va vous ramener au Sierra Leone ». Ils leur ont caché la vérité et ils les ont ramenés à New York. Le mensonge a été la source de leur asservissement ultime. Nous avons besoin de connaître la vérité au sujet de notre liberté. Êtes-vous sûr que ce sur quoi vous avez bâti votre vie est vrai? Êtes-vous sûr que ce sur quoi vous avez bâti votre vie est la vérité que notre verset mentionne ce soir? La vérité, et non pas les vérités. La vérité, mais qu'est-ce que c'est? Il ne s'agit pas d'une vérité parmi les autres, chers amis. Il s'agit de la vérité. Et la Bible dit d'elle-même qu'elle est la parole de Dieu. Les indications qu'elle nous fournit nous conduisent sur la bonne route, celle qui mène au bon port. Si nous les écoutons, le message contenu dans ce livre est le message qui peut nous rendre parfaitement libres. Quel est ce message? C'est le message de l'amour de Dieu pour les pauvres esclaves que nous sommes. À vrai dire, chers amis, notre condition sans Jésus-Christ n'est pas différente que celle des esclaves sur ce bateau de la Amistad. À une seule différence, ces gens avaient été capturés et réduits en esclavage. Pour nous, nous nous sommes rendus nous-mêmes esclaves du péché. Nous sommes à la fois les esclaves et à la fois les esclavagistes. Il y a une double colère de Dieu sur nous. Colère à cause du péché. Colère parce qu'on a pris plaisir à le pratiquer. Colère parce qu'on a pris plaisir à remplacer ce vide en forme de Dieu par autre chose que Dieu. Dieu est moralement parfait. Dieu est moralement droit. Vous ne pouvez pas trouver une perfection plus grande que celle de Dieu. Dieu ne peut pas voir notre péché. Il ne peut pas le regarder. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Par nature, nous sommes éloignés de lui. Et tout ce que nous appelons notre, tout ce sur quoi nous avons fondé notre vie, tout ce qui est contraire à la personne de Dieu, tout ce qui est contraire à sa droiture, la moindre petite chose est en désaccord avec lui. Je parlais cet après-midi avec un monsieur. Nous lui avons demandé, est-ce que vous irez au paradis? Il nous a dit, oui, parfaitement, j'ai fait tellement de bonnes œuvres. Alors nous lui avons demandé, combien de péchés avez-vous fait? Et il nous a dit, oh, je ne peux même pas les compter tellement j'en ai fait. Mais, cher monsieur, est-ce que vous pensez qu'un tribunal humain vous relâcherait pour vos bonnes œuvres si vous avez commis un nombre d'infractions à la loi tellement énorme que vous ne pouvez pas les compter? Ce n'est pas possible. Nos premiers parents, Adam et Ève, ont été chassés du paradis pour un seul péché. Et nous nous rentrerions avec tous nos péchés, toutes nos addictions, tous nos esclavages qui nous rendent malheureux au bout du compte, alors qu'en fait nous avons pris plaisir en eux. Chers amis, il y a une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes séparés de Dieu à cause du péché. La mauvaise nouvelle, c'est que nous ne pouvons pas rentrer dans le paradis de Dieu à cause de notre péché, parce que Dieu est en colère et que, par nature, le péché que nous avons nous rend complètement esclaves et éloignés de lui. Dieu ne prend pas plaisir en cela, comme nous l'avons dit. Mais il y a une excellente nouvelle. Et c'est la meilleure nouvelle qui n'ait jamais existé sur cette terre. Vous n'entendrez jamais une nouvelle pareille à la radio. Vous n'entendrez jamais une nouvelle pareille dans les infos au journal de 20h. Cette nouvelle-là, c'est Christ qui est venu dans le monde pour prendre la condamnation que nous méritions et pour nous délivrer de notre esclavage. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. La vérité, c'est qu'il y a 2000 ans, il y a cet homme parfait qui a marché parfaitement, qui a été parfait dans toute son obéissance à Dieu, qui n'a jamais transgressé une seule fois la volonté de Dieu, contrairement à nous, qui n'a jamais été esclave. Lui, il était parfaitement libre jusqu'au bout. Et il nous a tellement aimés, il t'a tellement aimé, qu'il est venu mourir sur une croix pour toi, pour que tu sois libre de tes péchés, pour que tu sois libre de la condamnation, délivré de la colère de Dieu, et que tu puisses avoir une relation avec lui. Il est mort sur une croix. Il est mort pour tes péchés, si tu l'acceptes. Chers amis, si je vous offre un cadeau ce soir, et que vous le refusez, ça n'empêchera pas que je vous aurai offert un cadeau. Mais si vous le refusez, vous repartirez sans. Le cadeau ne sera pas à vous. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix n'est valable que si vous l'acceptez personnellement. Sinon, c'est que vous n'en avez jamais eu l'opportunité de la jouissance. Il y a un cadeau qui est offert à tous ce soir. Il y a une grâce qui est annoncée à vous tous. Il y a une délivrance qui est proclamée. Est-ce que vous acceptez de la saisir? Est-ce que vous êtes prêt à vivre la vie d'un homme libre? C'est le message d'amour que Dieu veut vous donner ce soir. Il vous aime tellement qu'il veut votre liberté. Vous savez, finalement, c'est simple la vie. Dans cette salle, il n'y a que deux catégories de personnes. Les perdus et les sauvés. Ceux qui sont perdus et qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Et les autres qui ont déjà fait ce pas, qui l'ont accepté personnellement et qui sont déjà passés de la mort à la vie, qui ont expérimenté ce que la Bible appelle la nouvelle naissance, qui ont été transformés par l'Esprit de Dieu, qui sont déjà, en quelque sorte, un pied dans le ciel. C'est très simple. Soit tu es sauvé ce soir, soit tu es perdu. Dans quelle catégorie es-tu? Mais maintenant, quel est ton esclavage? De quoi as-tu besoin ce soir d'être libéré? C'est une question que nous devrions tous nous poser. J'aimerais conclure par la prière et je vais vous demander à tous d'incliner vos têtes. Et nous allons prier ensemble. Et pendant que nous avons la tête inclinée, les yeux fermés, si quelqu'un ce soir veut faire ce pas d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur, Libérateur, c'est l'occasion de le faire. Et vous aurez en quelque sorte à formuler la prière que je vais faire à votre manière. Si quelqu'un ce soir veut expérimenter la vraie liberté, c'est le moment. Si quelqu'un ce soir se rend compte que dans sa propre vie, malgré qu'il ait fait déjà cette démarche d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, il reste des liens, il reste une forme d'esclavage contre laquelle il lutte. Si tu luttes de quelque manière que ce soit contre quelque aspect de ta vie que ce soit, ce soir, engage-toi, demande au Seigneur de te libérer. Que cette soirée soit pour toi une soirée de libération. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es le libérateur. Merci parce que tu es celui qui a marché parfaitement sur la terre. Jésus-Christ est venu marcher sur la terre. Il n'a jamais péché, il n'a jamais transgressé ta moralité. Il a été parfaitement libre. Et moi, je reconnais que dans toute ma vie, je n'ai fait que ce qui ne te plaisait pas. J'ai délibérément transgressé ta loi. Je me suis opposé à toi par nature. J'ai refusé la liberté que tu m'offrais et j'ai préféré mes propres plaisirs, mes propres passions, mes propres petites choses que j'appelle aujourd'hui mes péchés mignons peut-être. Et je les ai gardés pour moi. Et je me suis détourné de toi. Mais je reconnais ce soir que toutes ces choses-là, elles m'ont servi à rien. Je reconnais ce soir que tout ce que j'ai fait dans ma vie n'a fait que me rendre plus esclave et plus malheureux. Je reconnais que j'ai eu des intentions de chercher le bonheur, mais je me suis égaré loin de la source du bonheur. Je reconnais ce soir que c'est en toi que se trouve le vrai bonheur. Je reconnais ce soir que je ne peux pas accéder à toi par mes propres forces. Je reconnais ce soir que, quelles que soient mes bonnes résolutions, je suis incapable de m'approcher de toi. Je reconnais ce soir que je suis perdu si je n'ai pas Christ dans ma vie. Et je reconnais ce soir que je suis malheureux si je suis esclave de quoi que ce soit. Alors j'aimerais te donner ma vie tout entière. Je voudrais que tu la prennes et je voudrais que tu la transformes. Je voudrais non seulement ce soir t'accepter comme Seigneur et Sauveur, mais je voudrais m'engager à te suivre. Et je voudrais te demander de transformer ma vie, de me rendre capable de te suivre. Amen. Pendant que nous gardons les yeux fermés, la tête inclinée, je voudrais que si quelqu'un ce soir a pris une décision de suivre Christ, qui aimerait qu'on puisse prier pour lui, puisse maintenant se manifester en levant la main. Si quelqu'un ce soir a pris une décision, la décision de suivre Christ, de s'engager à marcher avec lui, tu peux lever la main et on va prier pour toi. Oui, j'ai vu ta main, tu peux la baisser. Il reste encore un peu de temps. La porte est ouverte. Il y a une grâce qui est offerte à tous. Si tu veux l'accepter, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant. Demain, tu ne sais pas de quoi ce sera fait. C'est aujourd'hui que la porte de la grâce est ouverte. Si quelqu'un ce soir également reconnaît qu'il est esclave de quelque chose, même si sa vie est cachée avec Christ en Dieu, qui se rend compte que dans sa propre vie, il y a tellement d'obstacles à vivre une vie abondante, la plénitude du Saint-Esprit, et qui voit cet esclavage comme quelque chose qui l'empêche de vivre une vie abondante en Christ. Si tu veux lever la main, si tu veux le faire ce soir, j'aimerais prier pour toi. Oui, j'ai vu ta main, tu peux la laisser. J'ai vu ta main, tu peux la laisser. Merci. Encore un peu de temps, encore, si quelqu'un veut lever sa main. Je vous prie. Seigneur, merci pour ceux qui ont manifesté ce soir le besoin de prière. Et tu vois ceux qui se sont engagés à te suivre. Tu vois ces dispositions de cœur, ces personnes qui veulent s'engager à marcher avec toi. Et nous savons que par nos propres forces, c'est impossible. Je vais prier pour cette personne qui vient de lever la main, et je te prie pour que tu la transformes ce soir, tu lui donnes la capacité de marcher avec toi. Tu as vu cette décision. Je te prie, Seigneur, de vraiment lui faire du bien et de fortifier cette décision pour sa vie entière et pour la vie éternelle. Tu vois aussi ceux qui ont levé la main et qui reconnaissent avoir, sur le chemin qui les mène jusqu'à toi, de profonds obstacles et ces obstacles sont leurs propres addictions, leurs propres esclavages, Seigneur. Et tu sais combien il est facile de tomber dans un nouvel esclavage, même en tant qu'enfant de Dieu. Je vais te prier de les libérer, Seigneur. Je vais te prier de les rendre toujours davantage semblables à Christ, toujours plus libres, car tu es ce Dieu de liberté. Je te remets ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de laisser la parole à Michael, et pour un dernier chant, j'aimerais simplement vous dire que nous sommes plusieurs responsables d'église ce soir. Vous avez le pasteur Yann Master qui est là, Charles Kenfack, vous avez aussi Michael qui a dirigé la soirée ce soir, le pasteur Jacques Hudon qui a prié tout à l'heure et moi-même. Nous sommes à votre disposition si vous voulez échanger avec nous. Et nous serions vraiment très heureux de pouvoir parler, si vous le souhaitez avec vous, et de prier encore individuellement avec vous. Que Dieu vous bénisse tous.